Bison Chouinard s'est taillé une réputation enviable auprès des amateurs de la viande de ce bovidé trapu. L'entreprise compte des dizaines de clients réguliers dans toutes les régions du Québec.
Jean-Luc Chouinard, des bisons Chouinard de Saint-Jean-Pont-Folie.
Il y a longtemps que vous élevez des bisons?
Ça fait depuis un petit peu plus de 20 ans. On a commencé en 1996.
Et vous avez quel genre de troupeau, là?
À l'heure actuelle, on a une centaine de têtes. Ça tourne pas mal autour de ça depuis plusieurs années. Là. C'est pas mal le maximum là, en fonction des superficies qu'on a en enclos ici. Là. Les petits qui viennent au printemps, ça suit le cycle de la nature. C'est un animal sauvage encore, même s'il vit très bien dans des enclos de dimensions suffisantes. Là. Donc, les petits viennent au monde au printemps, lorsque les chaleurs se mettent en place. Et peu de temps après, on commence les abattages, puis on finit la période des fêtes. Ça fait que, donc, c'est ça, à ce temps-ci de l'année, là, où est-ce qu'on en est rendu, il nous en reste encore quelques-uns à battre, là, mais ça tourne autour d'une centaine de têtes.
Mais par année, vous réussissez à vivre avec vos abattages, à rouler votre cheptel, votre troupeau, là, de façon à fournir les abattages puis avoir de la relève?
Il nous en manque toujours un petit peu parce que ce qui arrive, depuis le début d'ailleurs, les ventes ont toujours été supérieures un peu par rapport à ce qu'on était capable de produire. Et là, disons qu'on achète quelques bêtes, là, mais disons c'est des exceptions. Là. Le gros provient de notre troupeau, je dirais à 90-95%, ça provient de notre troupeau.
À l'origine, c'est un troupeau qui vient de l'Ouest canadien?
Oui, à l'origine, le territoire du bison, c'était immense. Là, au début des années 1800, là, à l'apogée du bison en Amérique du Nord, d'une population totale d'environ 60 millions de têtes, ce qui est ni plus ni moins à peu près l'équivalent de ce qu'on a comme bovin à l'heure actuelle en Amérique du Nord. T'sais. Cependant, le territoire était immense. Ça partait de à peu près ce qu'on connaît là, comme étant le milieu du Mexique à l'heure actuelle. Au nord, ça allait à peu près au milieu du territoire du Nord-Ouest. Ça arrêtait au contrefort des Rocheuses, qui séparent la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et à l'est, il y en avait qui se retrouvaient même dans la région du Grand Lac supérieur. Fait que c'est un territoire immense.
À la fois, vous êtes éleveur, mais d'une certaine façon, vous êtes conservateur. C'est sûr que dans l'Ouest, on a réimplanté des troupeaux, puis ça fonctionne assez bien. Mais il n'y en a plus tellement. Là. Au total, là, il y a quoi là, en Amérique du Nord actuellement là? Libre et en élevage?
Au total, c'est environ 500 000 têtes, on pourrait me dire à grandeur du monde, parce qu'il y a des troupeaux disséminés un peu partout. Il y en a en Russie, il y en a même un troupeau à Hawaï, il y en a en France. Ce n'est pas des nombres très importants. Naturellement, le gros du cheptel se retrouve en Amérique du Nord. Sur ce 500 000-là, c'est divisé à peu près à part égale entre les États-Unis et le Canada. Ça a pas mal tout le temps été historiquement parlant comme ça.
Avant les bisons, la ferme avait été multi-espèce, pourrait-on dire. De nouveau, Jean-Luc Chouinard.
Comme la plupart des fermes à l'origine, c'était des fermes qui assuraient la subsistance de la famille. C'était multi-espèces, on retrouvait de tout sur la ferme. Il y avait des vaches laitières, naturellement, il y avait des animaux de boucherie, il y avait des chèvres, il y avait des lapins, il y avait des poules. T'sais, c'était le kit au complet là, pour s'assurer sa subsistance, puis une certaine variété au niveau de la nourriture sur une base annuelle. Par la suite, c'est devenu une ferme laitière. Lorsque l'industrialisation a commencé à se mettre en place, ça s'est fait au niveau de la crème, comme ça s'est fait à bien des endroits au départ, puis après ça, bien, ça a été le lait. La ferme a eu beaucoup de succès dans le passé à ce niveau-là, au niveau de la race canadienne surtout, parce que, disons, il y avait François Chouinard, qui était un de nos prédécesseurs ici. Là. Il a gagné des concours du meilleur éleveur au niveau provincial dans la race canadienne à deux reprises. Dont une en 1937, puis l'autre, c'est dans les années 40. Là. On a les certificats ici. Ça a resté au niveau de l'industrie laitière, aller jusqu'au début des années 90, aller jusqu'à temps que le propriétaire précédent, disons, avec l'âge, décide de prendre sa retraite. Il manquait de relève, tu sais, il y avait une couple de fils, mais il était déjà occupé dans d'autres types d'emplois. Puis nous, bon, on est arrivé par la suite, et mon idée, c'était d'aller dans un créneau qui était totalement différent du conventionnel, là, de ce qu'on connaît au niveau des productions domestiques là, au Québec. C'est pour ça que je suis allé vers une espèce qui demande moins de soins, beaucoup moins de soins que nos animaux domestiques, qui vit à l'extérieur à l'année longue et puis qui est très résistante, qui est bâtie pour nos climats. Là, et c'est pour ça que je suis arrivé à choisir le bison. La raison principale, au départ, par exemple, était le goût de la viande. J'ai eu l'occasion, une couple de reprises, la chance de goûter à cette viande-là, puis ça m'a marqué. C'est pour ça que quand les choses se sont mises ensemble, là, ben, disons qu'on a acheté notre troupeau de départ, puis on a acheté la ferme par la suite, puis on est parti dans cette aventure-là.
Et pourquoi parler aujourd'hui de bison chouinard? Eh bien, parce que la terre où est installée l'entreprise a exactement, le 29 octobre, 300 ans. À cette date, en 1718, le sieur Pierre-Aubert de Gaspé concédait le lot en question.
L'origine de la ferme remonte, ça va faire 300 ans que les activités sont démarrées ici. La date de concession par le seigneur Pierre-Aubert de Gaspé est le 29 octobre 1718, concession de cette ferme-là. À l'origine, cette ferme-là a été attribuée à deux frères. C'est le père Charles Bélanger qui s'est entendu avec le seigneur de l'époque et qui a passé acte notarié avec ses fils, naturellement. Et c'est les premières dans ce secteur-là, ici, de Saint-Jean-Port-Joli, qui ont été concédées. Quand on lit les actes, on se rend compte que de chaque côté, il n'y avait pas de voisins. Donc, ça voulait dire que les terres n'avaient pas été encore concédées. Ça appartenait au seigneur encore à ce moment-là.
Des terres concédées par Philippe-Aubert de Gaspé.
Par Pierre-Aubert de Gaspé.
Pierre-Aubert de Gaspé, qui était, je pense, l'arrière-grand-père de Philippe.
Je pense que oui, c'est exact, oui.
On remonte assez loin, c'est les débuts de la colonie ici, là.
Oui, effectivement. Écoute, la famille Bélanger, à l'époque, elle demeurait à Château-Richer. Il ne s'était pas établi dans la région encore, parce que, bon, il y avait pratiquement personne à Saint-Jean-Port-Joli à cette époque-là. Notre ancêtre, Jacques Chouinard, qui était un des premiers à s'établir à Saint-Jean-Port-Joli, il est venu s'établir du côté ouest du village en 1692. Donc, on parle de seulement 26 ans par la suite. Là. C'est une génération. C'était au tout début. Naturellement, l'accès était par le fleuve. Il fallait avoir des chaloupes et le transit, le peu de négoce qu'il y avait à faire, se faisait par voie maritime à ce moment-là. Il n'y avait pas de chemin du tout.
Donc, la 132 qui est juste devant la ferme ici, la route 132, ça n'existait pas. Là. Le village comme tel, l'église et tout ça, ça a été bâti quand, ça?
L'église a été bâtie par la suite parce que, bon, à ce moment-là, ça se rattachait à la paroisse de Lillet. Il y avait un terme, le pot de Lillet ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, disons, c'était ce qu'on connaît maintenant comme étant Lillet.
Pour aller vers le village... Après là, 1718, là, bien, il y avait des petits chemins de campagne là, de terre battue, là, puis de neige tapée l'hiver.
Oui, bien j'imagine là, qu'il devait y avoir un certain chemin au travers des épinettes là, à ce moment-là là, pour relier là, les quelques maisons des habitants qu'il y avait dans le secteur. Parce qu'il y avait quand même d'autres habitations un petit peu plus du côté est, à Saint-Anne-de-la-Pocatière, Rivière-Ouelle, etc. Là. Il devait y avoir une certaine communication, pas seulement par voie maritime. Là. Mais le chemin du roi qu'on appelle maintenant Avenue des Gaspés Est, dans ce secteur-là ici, où la route 132 n'existait pas. C'est venu par la suite, bien plus tard. Les Chouinards se sont installés du côté ouest du village, à proximité de la rivière Port-Joli. C'est là que, disons, Jacques Chouinard, le premier qui est arrivé de France, qui a transité également par Beauport-Château-Richer, là, avant de venir s'établir à l'Île-aux-Oies et connaître sa future à l'Île-aux-Oies, d'ailleurs, parce que son beau-père, un dénommé Jean, habitait là. Et c'est quelques années plus tard qu'ils se sont venus s'installer à Saint-Jean-Port-Joli de façon temporaire, l'été au tout début, naturellement, pour bâtir toutes les installations requises et par la suite, de façon permanente, pour y élever de nombreuses familles.
300 ans, c'est quand même quelque chose. Là. Il doit avoir une certaine fierté là, d'être sur une des premières terres du coin ici. 300 ans, ça se fête un peu.
Oui, effectivement. On a bien l'intention de souligner l'événement. C'est une marque qui, au Québec, il n'y en a pas énormément qui ont atteint ce seuil-là, surtout en étant une ferme encore en opération, parce que la plupart, naturellement, sont des fermes originales, sont maintenant devenues des terrains résidentiels. Ils étaient à proximité des villes qu'on connaît aujourd'hui, Québec, Montréal et autres. Ce qui fait que pour avoir maintenu ça en opération agricole pendant 300 ans, il fallait quand même le faire. Là. C'est beaucoup de d'efforts, surtout à l'époque. Maintenant, donc, on ne compte pas nos heures encore aujourd'hui, mais on a quand même l'assistance de bons équipements qui facilitent la tâche. Mais aller jusqu'à récemment encore, les fossés, c'était fait à la petite pelle là, ou à pelle à cheval. Là, ce qui fait que toutes les activités, c'était un peu la même chose. Là. La mécanisation a commencé sur la fin des années 1800 et puis c'était seulement quelques équipements, dont des moissonneuses, entre autres, là, qui ont sorti à cette époque-là. Là. Tout le reste se faisait vraiment de façon manuelle, avec des outils de bois principalement, avec un petit peu de métal là, pour en assurer une durabilité un peu plus longue.
Ici, là, c'est la première ligne de développement. Là. On est sur le bord du fleuve ou très proche du fleuve. Donc, c'est vraiment la première ligne de développement. Là.
Exact. Oui. C'était les concessions initiales. Ça partait du fleuve. Les concessions étaient de 3 arpents par 42 arpents de long. Le 42 arpents était pas mal standard. Ça a donné des maux de tête un petit peu éventuellement parce que, naturellement, la côte sur le long du fleuve n'était pas régulière. Ils ont été obligés de trouver une solution à ça à un moment donné. Lorsqu'ils ont venu à établir le deuxième rang. Et successivement, après ça, ça a été un petit peu plus facile. Mais c'est ça, les concessions initiales dans ce secteur ici, les trois terres qui ont été concédées à l'origine aux trois frères étaient de 3 arpents par 42 arpents de profondeur.
Vos projets à vous gardez la ferme?
Oui, naturellement. Même dans le contexte extrêmement difficile de réglementation qu'on connaît aujourd'hui au niveau des fermes, il reste qu'on va faire notre possible pour en assurer la pérennité.
Parce que le pâturage se trouvait presque au bout de la terre, Jean-Luc Chouinard m'a amené en tracteur voir son troupeau.
Quand on connaît le caractère du bison, c'est prévisible. Il y a différentes choses à respecter quand on rentre dans un enclos, ce que la plupart des gens ne connaissent pas. Il faut que l'animal se sente en confiance. Peu importe ce qu'il y a à proximité, là, si l'animal se sent en confiance, il n'y a pas de problème. Mais du moment qu'il interprète ça comme un signe de danger, là, à ce moment-là, il va réagir. Normalement, sa première réaction, c'est un peu comme nos chevreuils en forêt, c'est la course. C'est un animal qui est équipé pour courir de façon très rapide. Ça peut courir jusqu'à 65 km/h. C'est son premier moyen de défense, façon de parler. Là. Cependant, si on le surprend, on est trop près, puis il ne se sent pas à l'aise, il va réagir et il va charger, s'il se sent menacé. Ou surtout si la femelle sent son petit en danger. Ça, c'est la chose à faire extrêmement attention. Ne jamais s'approcher d'un petit, surtout naturellement quand on n'est pas la personne qui s'en occupe. Puis même quand on est propriétaire, c'est vraiment pas recommandé de s'approcher des petits parce que la femelle, c'est instinctif, elle va tout faire pour protéger son petit.
Et l'avenir de la ferme est dans l'élevage du bison, effectivement. Marie-Jo Gibson et son mari Jean-Luc Chouinard ne tarissent pas d'arguments en faveur de la viande de cet animal. Il est question de goût, bien sûr, mais aussi de santé.
Au niveau des cardiologues, ils sont bien au fait du faible pourcentage de gras qu'il y a dans cette viande-là. C'est un animal qui n'accumule pas le gras de façon indue. En plus de ça, le gras qui se met naturellement sur le dos pour se préparer à l'hiver, c'est un gras qu'on peut facilement digérer, qu'on n'accumule pas, contrairement au gras qui est plus nuisible au niveau de la santé. Et étant donné qu'on digère ce gras-là, ben on ne l'accumule pas au niveau des artères. Ce n'est pas des animaux, en termes d'alimentation, où est-ce qu'on les pousse à l'extrême. Ils vont à leur rythme. Et puis d'ailleurs, de toute façon, il y a eu des essais aux États-Unis, surtout, là, pour essayer de faire croître cette bête-là plus vite. Et il s'avère que, disons, au niveau économique, c'est vraiment pas rentable. Parce que donc le système de l'animal, le système digestif de l'animal est fait pour prendre une nourriture beaucoup plus pauvre que ce qu'on donne normalement maintenant, surtout à nos animaux domestiques. Et il la transforme de façon beaucoup plus efficace. Il en extrait tous les nutriments qui sont requis pour son bien-être et il ne surmange pas. D'ailleurs, en moyenne, un bison à poids égal, comparativement à nos bovins domestiques, va consommer environ 35% à moins d'aliments pour vivre. Puis il va très bien faire, il va très bien croître. son cycle de développement est deux fois plus long que les bovins domestiques. Il vit deux fois plus longtemps en moyenne. Et par conséquent, pour atteindre l'âge adulte, bien, c'est deux fois plus long aussi. Il faut tout mettre en perspective. Mais comme je mentionnais, à poids égal, le bison est beaucoup plus intéressant à garder dans des bonnes conditions versus des bovins domestiques.
Ici Lionel Levac. Grand coup de chapeau au bison chouinard et bon 300e anniversaire de la ferme. À bientôt.